pied sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Les conséquences des accidents de voyageurs ont pour les conducteurs de train des implications que les gens sont loin d'imaginer. Il y a le traumatisme dû au fait de voir quelqu'un mourir. Les gens pensent souvent aux pompiers qui vont ramasser les morts, les restes, mais ils ne pensent pas qu'avant les pompiers, il y a eu une dernière relation entre la victime de l'accident et un autre humain, c'est le conducteur du train, quoi. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il y a souvent un échange de regards. Souvent, les gens cherchent les yeux du conducteur et effectivement, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier et puis qui nous suivent tout le temps, quoi. Il y a tout un tas d'autres accidents de personnes qui ne sont pas dus au fait que les gens se suicident. On a de plus en plus des gens qui se font prendre le bras par une porte de train et qui se font traîner sur les quais avec des conséquences plus ou moins graves. Des fois, il y a des décès, des fois, il n'y en a pas. Et ça, ça devient de plus en plus insupportable pour les conducteurs. Parce qu'en fait, vous vous retrouvez dans une situation où c'est en manipulant votre outil de travail que vous avez potentiellement tué quelqu'un.
C'est le tristement célèbre accident de personne annoncé dans le haut-parleur du métro, du RER ou du train qui vous met en colère et en retard. Tous les jours au moins, une personne est victime de ce genre d'accident sur ou aux abords des voies ferrées. Le suicide proprement dit, c'est tous les deux jours. Jusqu'à récemment, la SNCF restait très discrète sur le sujet, mais aujourd'hui elle communique davantage et réfléchit à des moyens de décourager les candidats au suicide de se tourner vers les rails, comme la formation d'agents sur les quais pour détecter d'éventuels comportements à risque. Elle a mis aussi en place un plan de prévention à l'école. Car un suicide, c'est peut-être une vie, mais aux yeux de la SNCF, ce sont d'abord 2 à 3 heures d'interruption de trafic, le blocage de plusieurs lignes, des usagers exaspérés, le tout représentant évidemment un coût. En revanche, les cellules de communication de la dite SNCF et de la RATP ne souhaitent pas particulièrement qu'on aborde ces questions directement avec les conducteurs. Ce sont pourtant les premiers concernés, ces agents qui ont parfois vu 7 ou 8 personnes se jeter sur les voies au cours de leur carrière, mais craignent souvent d'en parler, de peur de paraître fragiles ou déstabilisés. Nous avons pourtant réussi à en rencontrer 3. Ils ont la quarantaine, entre 15 et 20 ans de service à la SNCF. Ils sont rattachés au réseau Nord, Est et Ouest parisien. Ils conduisent principalement des trains de type RER. Alors de la remise en cause du fameux statut de cheminot et en prévision d'une mobilisation qui aura certainement de l'ampleur, je vous propose donc d'écouter ou de réécouter quelques moments de la vie quotidienne et pas les plus amusants des conducteurs de train. Une émission signée Farida Terre et diffusée pour la première fois le 1er avril 2010.
Max, vous êtes conducteur depuis combien de temps ?
Depuis 13 ans. Et en 13 ans, j'ai déjà eu 2 accidents et j'ai déjà soit donné un coup de main à d'autres collègues qui ont été confrontés à ça, ou soit vu aussi en tant que voyageur, j'ai déjà été dans des trains où à côté ça avait tapé. Donc ça, à chaque fois, ça ramène des choses, quoi. Alors par rapport aux accidents de personnes que j'ai pu avoir, alors le premier c'était en 2001, au mois d'avril, et en fait, en bout de quai, il y a une personne qui s'est jetée sur la voie. Il a sauté, il est retombé sur ses pieds, il s'est allongé. Il a tourné la tête pour me regarder dans les yeux. Et puis voilà. J'aurais vu une soucoupe volante se poser sur la voie. Ça ne m'aurait pas fait autre chose. Cette personne se présente. Je vois ça, je siffle. C'est-à-dire qu'on a un klaxon, je siffle tout ce que je peux. En même temps, je tape avec mon poing sur le frein d'urgence. Je me suis d'ailleurs ouvert la main, j'avais du sang sur la main. Je ne m'en suis pas rendu compte, c'est les gens après, quoi. Et puis dans la cabine, j'ai crié. Et en fait, je sais pourquoi j'ai crié. J'ai réfléchi après, parce que je ne voulais pas entendre le bruit de l'impact. J'ai crié pour que le son de ma voix emplisse la cabine et que je n'entende pas le choc. Et bon, malheureusement, on l'entend, on le ressent, parce que ce n'est pas anodin. Dès que le train s'est arrêté, j'ai continué de faire mon boulot, j'ai bloqué les portes, j'ai passé une annonce. Alors là, le langage cheminot, ce qu'on peut entendre dans les gares et tout ça, ça n'existe plus. Hein. On vient d'écraser quelqu'un, tout le monde reste assis à sa place, on attend les secours, tout ça. On parle aux gens comme avec ses tripes, en fait. Hein. Il y a la gare qui est pas loin derrière, ils ont tous envie de descendre à pied pour y aller. S'ils y vont, c'est du suraccident. En même temps que je fais tout ça, je déclenche les alarmes pour arrêter le train qui arrive en face. Parce qu'en banlieue, il y a des trains tout le temps. parce que potentiellement la personne ne peut ne pas être morte et qu'elle se fasse taper par le train qui croise. Donc j'enfonce les alarmes, j'arrête le train. Et là, j'appelle ce qu'on appelle, nous, le régulateur, c'est-à-dire que c'est comme les tours de contrôle pour les avions, bon, y a les tours de contrôle pour les trains qui surveillent le trafic, quoi. Et je lui dis, je viens d'écraser quelqu'un, j'ai arrêté les trains, telle voie et telle voie. Mon train est arrêté, la voie d'à côté aussi, et on attend les pompiers. Et là, le gars me répond, peux-tu aller voir si ça passe quand même ? En clair, va voir si les morceaux sont pas, n'engagent pas le rail d'à côté, puis on fera passer les trains quand même. Alors là, j'ai refusé, parce que je me sentais pas du tout de descendre. Moi, je ne porte pas de jugement. Il y a des collègues qui le font. Le professionnalisme les porte encore quelques minutes de plus que ça on a pu me porter, moi. Moi, j'avais, à partir du moment où mon train était arrêté, les gens qui étaient derrière moi étaient en sécurité, le train en face, il était arrêté. J'ai cessé d'être au boulot. C'était fini. J'avais fait ce que... Et puis après, on attend, parce que la procédure veut qu'un cadre vienne nous rejoindre, un cadre d'astreinte vienne nous rejoindre avec un collègue conducteur qui nous relèvera. Jusqu'à après, on va au commissariat. Et là, ce temps-là, il est particulièrement long. J'ai senti le besoin de plus être seul. Alors j'ai ouvert la porte d'intercirculation entre la cabine de conduite et les voyageurs, et je suis allé vers eux. Et c'est là que quelqu'un me dit, mais vous avez du sang sur le pantalon. Et là, je me dis, c'est le sang du gars, quoi. Ce qui est impossible, en faire rien. Et en fait, non, je m'étais ouvert la main en tapant sur le frein d'urgence, quoi. Donc, ensuite, la police arrive. L'officier de police judiciaire me dit, vous descendez avec moi, on va reconnaître le corps. Alors là, je refuse, encore une fois. Donc, vous vous remettez un stress. Vous refusez quelque chose à une autorité, quoi. On est trois personnes différentes. On est acteur de la mort de la personne. On est victime soi-même et on est un cheminot au travail. D'abord, on dort mal, on y pense tout le temps. Et par contre, c'est là où on se rend compte que l'inconscient, ça existe. Parce que pour moi, c'était pas forcément quelque chose d'évident au départ. C'est que tu rentres dans la douche, tu mets l'eau, et l'eau, elle tombe de la pomme de douche. Donc, tu penses absolument à rien. Et là, tu le vois. Quand on dit il y a des flashs, je pense que c'est ça que les médecins appellent des flashs, ça existe vraiment. Tu fermes les yeux pour pas avoir de l'eau dans les yeux, et en fermant les yeux, t'as le film qui repasse en une seconde. Tu revois le regard du gars qui est allongé là, qui te regarde en attendant que le train passe dessus. Et ça, c'est chaud. C'est chaud parce que tu te dis, ça m'arrive au volant, je suis avec mes enfants, voilà, on se dit merde, mais potentiellement, je peux perdre les pédales. Donc, eh ben, c'est difficile à gérer. C'est difficile, et puis le temps passe, et puis les cauchemars disparaissent un peu. Par contre, donc, entre deux, on a repris le boulot. Le stress, il est permanent. Les premiers jours où j'ai refait des trains, et notamment quand je repassais à cette gare-là, c'est évident, on y pense toute la journée. On finit, mais rincé, complètement épuisé. Sous tension pendant 8 heures, quoi. Parce que on se prépare à ce que ça recommence. Surtout qu'en zone dense, dans l'Île-de-France, en banlieue, on sait que ça arrive. J'ai des collègues à qui c'est arrivé plusieurs fois. Moi, ça m'est arrivé une autre fois plus tard, dans d'autres circonstances complètement différentes. Mais donc, on sait que ça va se reproduire, potentiellement. Et quand on vient de le vivre, eh ben, on est prêt à ça toute la journée. Chaque seconde où on est à la conduite du train, on est prêt à ça. Je ne vous dis pas dans quel état de nerf on finissait la journée.
À SNCF en avril 95, donc ça fait 15 ans que je fais ça. Je vais commencer par le premier qui est arrivé en décembre 98. Donc là, c'est quelqu'un qui a voulu se suicider, il s'est allongé sur la voie. Apparemment, d'après la police, il avait pris des médocs, il était complètement HS. Moi, quand je l'ai vu, il était complètement allongé sur la voie à travers les rails. J'étais à peu près à 150-200 mètres à peu près. Et là, le temps que le train s'arrête, c'est très 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 long. C'est quelques secondes, mais c'est très 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 long. Ouais. Je roulais à 90. Le temps que j'ai une seconde de réaction, le temps que ça commence à freiner, le temps d'appuyer sur l'urgence, que le train commence à freiner, on se retrouve à une cinquantaine de mètres de la personne rapidement, quoi. Et après, quand c'est arrivé, le train s'arrête. On se pose au moins, je sais pas, moi je me suis, à chaque fois je me suis posé 30 secondes, une minute quoi. À rien faire, à souffler. Et puis après, appeler le régulateur et les secours quoi. Mais un petit temps d'attente quoi, un petit temps d'attente. On est quand même très très choqués. Hein. Eh ben, on a tué quelqu'un quoi. Même si on a fait tout pour freiner, pour s'arrêter, on l'a tué quoi. Il y en a qui choisissent le train, le métro pour mettre fin à leur vie. Même si j'y peux rien, c'est lui qui l'a voulu, ou même si c'est un accident, bah nous, on est les premiers victimes. Conducteurs, on est les premiers victimes de ça.
Vous êtes descendu sur la voie ?
Non, pas la première fois. Parce qu'il y en a, il m'est arrivé deux accidents de personnes. Donc là, c'est un accident. Il était 20h15, c'était la nuit. Donc j'ai vu la personne, elle a voulu remonter sur le quai, et là ça fait boum. Donc je sais pas si elle traversait ou si elle est descendue chercher quelque chose, je sais pas du tout. Mais quand je l'ai vue, elle était debout sur la voie. Donc quand j'ai commencé à siffler, elle a voulu remonter sur le quai. Et là ça a tapé, ça fait blum. Là, ce qui m'a fait du bien, c'est qu'en fait la personne n'est pas décédée. Et apparemment elle avait pas grand chose. J'ai pas compris du tout comment il est encore vivant. J'en suis très heureux pour lui. À mon avis, il ferait bien aller brûler un cierge parce que là, c'est vraiment miraculeux, mais qu'il recommence pas parce qu'il n'aura pas autant de chance à chaque fois. Chaque accident, on réagit d'une façon. Alors, je ne suis pas pareil le premier, j'ai pas réagi exactement pareil que là. J'étais plus choqué sur le dernier alors que je l'ai pas tué. Ouais. Pourquoi je sais pas. J'étais vraiment pas bien le jour même. Le lendemain, j'y pensais pas mal. Il m'a foutu quelques jours. Et bon, quand c'est comme ça, en général, on a fini du travail, on est arrêté en général au moins une semaine. Donc là, j'étais arrêté une petite semaine. C'est bien tombé parce que. C'était les vacances scolaires, j'avais les enfants à la maison. Donc, bon, on a fait des activités, on a joué ensemble, machin, ça fait penser à autre chose, ça a apaisé. Et je sais pas, si ça m'arrive encore une fois dans ma carrière, je sais pas comment je vais réagir, j'en sais rien du tout. Il y en a, bah, ça leur arrive une fois, et puis ils ont l'impossibilité de remonter en cabine, ils peuvent plus conduire. Ou il y en a, ça fait 3 qu'ils ont, au bout du 4e, ils pètent un plomb, ils peuvent plus monter en cabine. Quoi. Je sais pas où il en est exactement en ce moment, mais le collègue qui avait tapé les supporters à la plaine, là, il avait été arrêté un petit peu, il avait repris, et là apparemment il a encore arrêté. J'ai pas trop de nouvelles de lui, mais apparemment ça va pas. C'est pas au plus haut niveau de sa forme, quoi. À mon avis, c'est quelqu'un qui aurait pu conduire. C'est quelque chose de très très dur qu'il a dû vivre et. J'aimerais pas être à sa place. C'est vraiment. Vraiment pas de bol, quoi. Qu'est-ce qu'il foutait là, quoi? Qu'est-ce qu'il foutait là? Ces gens. Tout ça, bah, encore, pour gagner peut-être 10 minutes. Un quart d'heure pour rejoindre le bus, pour les ramener à destination, quoi. Et puis voilà, ils ont tout gagné. Il faut pas se promener sur les voies, c'est dangereux. Un train, c'est pas une voiture. Une voiture, c'est déjà long à s'arrêter, mais un train, c'est 10 fois plus long à s'arrêter, quoi. C'est trop dangereux. Faut pas risquer sa vie, quoi. C'est complètement idiot. C'est pareil, les gens se mettent toujours près des quais. Près du bord du quai, là, c'est vachement dangereux. Quoi. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui le pousse ou une bousculade, le gars il tombe, il y a un train qui arrive et puis voilà, quoi, il se retrouve en dessous et puis un accident bête. Quoi. Un quart d'heure dans la vie, qu'est-ce que c'est d'un quart d'heure quoi, par rapport à la vie. Ouais, à la rigueur, vaut peut-être mieux une petite engueulade par le patron parce qu'on arrive à un quart d'heure en retard et puis être vivant.
Et les gens, ils vont s'allonger sur les rails la nuit et ils attendent le premier train. Et le premier train, il passe. Si c'est un train lourd avec une machine bruyante, s'il fait nuit, vous voyez personne, potentiellement, vous n'entendez pas. Quoi. C'est possible, les ventilateurs de la machine, des choses comme ça. Vous pouvez... Par contre, le premier train qui passe derrière, en plein jour, bon ben voilà. Donc j'ai été ce train-là, le conducteur de ce train-là. En fait, je me suis arrêté à une gare et au bout du quai, j'ai vu un truc étrange. Donc je suis descendu à pied pour aller voir. Et là, contrairement à la première histoire, d'un point de vue sécurité, je dirais le corps ne pouvait plus être choqué par un autre train. Donc je n'ai pas exigé l'arrêt des circulations, j'ai avisé comme quoi il y avait un corps là, il y avait plusieurs morceaux hein, pour dire les choses comme elles sont. Donc moi je suis reparti. Et je suis reparti. Un kilomètre après, il y avait une action à faire dans la conduite du train, et j'ai fait une connerie. Et puis ben là, je ne sens plus mes jambes. Et puis ben, voilà, je perds les pédales, quoi, complètement. Donc j'ai appelé, et j'ai dit, la gare d'arrêt suivante, c'est fini pour moi. Je me suis fait relever. Et là, l'entreprise prend beaucoup moins bien en compte ce genre de choses. Enfin, moi, dans mon vécu. C'est-à-dire que donc on m'a rapatrié jusqu'à mon dépôt d'origine. Et là, normalement, la procédure voudrait que le cadre d'astreinte m'accompagne au cabinet médical. Ben, il m'a accompagné chez le directeur. Parce que, voilà, qu'est-ce que c'est que ce cheminot qui, voilà, c'est quoi cette histoire, quoi. C'est pas toi qui as tapé, voilà. Et les collègues qui me connaissent, ils savent que je suis pas du genre à me laisser démonter. Ben là, j'étais comme un enfant. Comme un enfant. J'étais comme j'étais dans la machine avant. J'avais pas les jambes, j'avais plus rien. J'étais vidé. Et donc, ensuite, je suis allé au cabinet médical. Alors, de moi-même, la personne m'a accompagné. Et puis, le médecin m'a dit, bon, bah, il y a une cellule psychologique à la SNCF qui peut vous aider à surmonter le problème. Ce serait intéressant que vous y alliez. Et donc, j'ai fait la démarche. J'ai pris les rendez-vous. Et effectivement, sans eux, je pense que je ne reconduisais pas. Bah, ce que j'ai compris, c'est que ce deuxième événement avait d'après ce que m'ont expliqué les psychologues, ça avait retenti chez moi de manière particulière à cause de ce qui m'est arrivé à moi personnellement dans ma vie. C'est assez étrange, c'est-à-dire que c'était au mois de décembre, je crois, il faisait froid, et les restes que j'ai trouvés étaient gelés, étaient congelés. Et j'ai eu personnellement une expérience assez particulière avec le froid. J'ai vécu dans des conditions de froid un peu particulières. Donc je ne veux pas trop en parler parce que c'est ça qui est ressorti de mon suivi psychologique. Alors évidemment on a parlé de la mort, évidemment on a parlé du premier événement, on est revenu tout ça, mais il a fallu aussi faire quelques séances pour que j'arrive à reprendre le dessus par rapport à ça.
Bon, moi j'ai eu un premier accident entre 1998 et 2001. Pour moi, c'était une soirée et j'étais aux alentours de 21h à Paris-Lyon. Et donc là, je suis arrivé avec une rame courte. Ça a été important par la suite pour moi que la rame soit courte. J'ai pas de doute sur la visibilité sur la rame après l'accident. Donc je descendais dans le tunnel de Gare de Lyon. J'étais en avance, donc ça roulait tranquillement. Je me suis arrêté. Il y avait quelques personnes sur le quai, mais vraiment pas grand monde, 4-5, pas plus de 10. En rentrant à quai, j'ai vu dans le champ de vision sur ma droite une équipe de... Je dis une équipe maintenant, mais à l'époque, je mets un rassemblement de personnes habillées de la même façon. Et je me suis dit, tiens, une brigade de contrôleurs qui est par ici. Et donc, j'avais 2 minutes d'avance. Donc, bon, bah, parce qu'alors, on attend. Et donc là, j'avais un écran d'éteint. Donc là, la procédure est prévue. Quand c'est comme ça, on ouvre la fenêtre, on vérifie de nous-mêmes la visibilité quoi, sur le train pour fermer nos portes. Et il n'y avait personne sur le quai. C'était la situation était vraiment très claire et donc j'ai fermé mes portes, j'ai relevé le carreau, pas de doute. Et dans ce cas-là, la sécurité elle tient en fin de compte à pas grand-chose, c'est bizarre, mais on a 5 secondes pour redémarrer. Quand on n'a pas la visibilité par les caméras, il faut attendre 5 secondes avant de redémarrer pour fermer ses portes. Donc là, la procédure se fait naturellement en fermant le carreau, donc j'ai décollé. Puis j'ai roulé jusqu'à Creil comme ça, sans savoir rien, quoi. Et après, je suis rentré à mon dépôt et le personnel qui nous gère, il reçoit un coup de téléphone, donc il décroche. Puis je vois qu'il me regarde fixement en même temps qu'il écoutait la conversation. Bon, bizarre, mais bon, Puis il raccroche, puis il me dit, bah, c'était la gendarmerie, la police plutôt, et il y a quelqu'un qui est passé sous ton train à Gare de Lyon. Donc bah, je dis, écoute, j'ai rien. Elle me dit, oui, ça m'étonne pas, je te regardais, et puis je voyais que ça avait l'air d'aller, quoi. Donc pour moi, je comprenais pas non plus. Bon, bah, il me dit, t'es convoqué demain matin pour faire une déposition, des constatations. Alors pendant tout ce temps-là, on ressasse le truc, on dit, est-ce que j'ai fait une connerie, comment ça s'est passé. Donc on refait tout le film. Alors là, heureusement que la situation était claire, qu'il n'y a pas de monde, que j'ai pas de toute visibilité, tout ça, parce que. Mais en même temps, je comprenais pas quoi, comment le mec était entraîné au démarrage, je ne comprenais pas. Et donc j'étais au commissariat de la gare de Lyon, je suis arrivé, et là l'agent de police m'a dit, bah, ce que vous avez vu en tête de la. Quand vous êtes arrivé sur le quai, c'est une brigade de police qui tournait là, en fin de compte, par hasard. Et donc il m'a lu la déposition de cette brigade. Et eux, de leur côté, ils ont entendu crier, et il y avait une personne coincée entre la rame et le quai. Alors là, tout ce que je raconte là, je pense que ça a dû se faire sur l'espace de 5-10 secondes. Ça a dû être très très bref. Et donc, eux, ils ont tapé sur les portes pour faire tirer un signal d'alarme par les gens à l'intérieur, mais les gens n'ont pas compris. Ils ont crié pour me faire entendre, mais ça a dû se passer pile poil au moment où j'ai remonté mon carreau, donc à 125 mètres à peu près, sur une rame courte, ça donne à peu près ça. Carreau fermé, pas possible d'entendre, il faudrait vraiment hurler, plus le bruit du moteur derrière. Et donc, il a été entraîné au démarrage. La personne a été entraînée par le marchepied. Il est décédé 5 heures après. Est-ce que j'aurais pu faire quelque chose qui aurait changé la situation? Est-ce que j'aurais dû attendre plus longtemps avant de fermer mon carreau? Plus longtemps avant de démarrer? On ressasse. On ressasse sans cesse le truc. Après, on remet en doute le système aussi, parce que avant qu'il y ait la ligne D, c'est à ma connaissance, je crois que c'est une des premières lignes, mais qui a été mise en agent seul. C'est-à-dire qu'avant, il y avait un agent de train dedans qui donnait le départ, et qui, lui, fermait les portes. Donner le départ, il a une petite manette avec laquelle il commande la porte et il donne un son de cloche en cabine qui nous autorise à partir. Et il reste à la porte, à sa porte ouverte pour vérifier qu'il ne se passe rien pendant la phase de décollage, en fin de compte. Et après, il ferme seulement sa porte. Donc je me suis dit clairement, oui, s'il y avait eu un agent de train, ce cas précis, la personne ne serait pas décédée. Il l'aurait forcément vu et il n'aurait pas donné le départ. Donc là, oui, j'ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est un cas qui fait partie du système, on a sacrifié une personne pour une économie, quoi. C'était vraiment le ressenti par rapport à ça.
Depuis les années 76, je crois, à peu près, l'entreprise a mis un système en place qui s'appelle l'EAS, équipement agent seul, où on a supprimé les contrôleurs, et donc toute la problématique de fermeture des portes, et puis des problèmes voyageurs ont été remis sur le dos du conducteur. C'est plus les gens qui sautent des quais qui nous inquiètent maintenant, c'est les gens qu'on emmène avec nos trains, parce que les portes se referment sur eux. C'est ça qui nous inquiète.
Mais par contre, je pensais que pour à la fermeture du train, il y avait un capteur qui prévenait quand il y avait quelqu'un ou bien quand il y avait une porte qui était mal fermée.
Il y a des capteurs, mais ils sont placés sur certains engins, ceux que je connais. Ils sont placés en haut de la porte. Alors, la fermeture des portes, si tu veux, le capteur peut être en contact, mais en dessous, s'il y a quelque chose de bloqué, c'est-à-dire que les joints de porte sont suffisamment souples pour qu'il y ait quelque chose qui a coincé dessous et que les contacteurs de porte soient quand même en contact. Donc, pour le conducteur, les portes sont fermées et donc il peut mettre ses moteurs en route.
Ok, d'accord. Je pensais que même s'il y avait quelqu'un qui était coincé, le conducteur, le train ne démarrait pas du tout.
Vous n'avez pas des copains qui vous racontent qu'ils se sont fait coincer le sac, le poignet?
Ça arrive souvent de se faire coincer le sac en rentrant du train, surtout quand on est vachement en retard et tout, donc on se fait coincer, ça arrive très souvent.
Alors, on nous parle beaucoup de service à la clientèle, on ne parle plus de service à l'usager, service à la clientèle, le premier qu'on leur doit, c'est la sécurité. Alors, c'est vrai que c'est bien de les renseigner pour savoir où ils vont trouver leur train, où ils vont trouver leur métro, où ils vont trouver. Mais quand ils sont pris par une porte avec un train qui démarre, et quand il y a des cheminots en gare et qu'ils sont incapables d'arrêter le train, là, c'est choquant. Et là, la SNCF, elle faillit à ses missions, je pense. Il y a un phénomène qui est réel, c'est qu'on a de plus en plus d'incidents de ce type et ils sont de plus en plus graves. Eh bien, ça n'inquiète personne chez nous. Ça n'inquiète personne à la SNCF. Tout va bien. Le matériel est bon, les procédures sont bonnes et on travaille bien.
Mais quand tu es étudiant, tu arrives, tu vois le train, il s'en va et tu dois être à l'heure à l'école. T'as envie quand même de courir pour aller le prendre.
Ouais, ça c'est vrai.
Ouais, c'est ça. Le matin surtout, tu dois être à l'heure parce qu'on fait l'appel à l'école. Donc tu es obligé de... Même quand ça ronfle, tu essaies toujours d'y aller quand même pour voir si tu peux le prendre.
Prenez bien en compte tout ça. Là, vous m'avez un peu entendu raconter les histoires. La prochaine fois que tu crois que tu vas être en retard et que tu mets la main pour attraper le train, réfléchis, quoi. Essaye d'y penser.
La solution, c'est de partir plus tôt. Comme là, maintenant, on va y aller parce qu'on a un petit train à 14h20. On ne peut pas mettre la main, donc... passe une bonne journée.
L'écran floconne. Il n'y a plus personne. Le silence. Il n'y a plus d'hommes dans ton cabas. Au marché, les salades dans le cœur batavia. Silence, mes anges, se réconcilie. Si on se taisait. Silence, je pense. Et puis non. Ce matin, un croissant mal luné m'est tombé dans le café. Quel programme! Quelle performance, un sitcom pour une angine de poitrine. Si on se taisait, si on se taisait, si on se taisait, si on se taisait. Et puis non, et puis non, et puis non, silence, mes anges, se réconcilier.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre avec Accident de Personne, un reportage de Farida Taher réalisé par Stéphane Deschamps avec un coup de main d'Emmanuel Geoffroy. Merci bien sûr à tous les mécanos rencontrés. Sachez que depuis la première diffusion de cette émission en 2010, il semble que les fonctionnaires de la SNCF ayant été impliqués dans ce genre d'accident soient désormais systématiquement relevés de leur service et qu'un accompagnement psychologique leur soit maintenant proposé à chaque fois. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Céline Autin, c'est notre stagiaire. Vous pouvez vous abonner à notre émission via les applications de podcast, podcast sur iPhone ou bien podcast addict sur les Android. Vous pouvez également nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Nous avons une magnifique page Facebook et un compte Twitter également bien fourni.